avait dit hein, qu'on aurait des résultats très partiels, qu'on ne saurait peut-être pas encore définir une tendance lundi matin. On voit que les choses sont beaucoup plus claires que ce qu'on pensait. C'est la droite et l'extrême droite qui a gagné en Italie.
Oui, c'est clair, mais les sondages l'avaient prévu. Donc je pense que les résultats sont plus ou moins en ligne avec ce que les sondages avaient prévu. Il faut constater une chose quand même, c'est que l'électorat italien, en réalité, au cours des dernières années, n'a pas vraiment changé structurellement. C'est-à-dire que vous avez plus ou moins 40-45% de l'électorat italien qui est de centre-droite et 40-45% de l'électorat italien qui est de centre-gauche. Mais le centre-gauche se présente divisé. Et lorsque le centre-gauche se présente divisé, il perd. Ça, c'est systématique. La seule véritable évolution historique que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'électorat de centre-droit se déplace de plus en plus vers la droite plutôt que vers le centre. Mais ça, c'est une tendance qu'on perçoit aussi dans d'autres pays, comme par exemple la France.
Hugues Lepage, vous êtes d'accord avec ça? C'est le fractionnement de la gauche qui a permis cette victoire de la coalition de droite en Italie aujourd'hui?
Pas que. Certainement que ça a joué et que la gauche, le centre-gauche, aurait pu obtenir en tout cas un résultat meilleur et, disons, freiner la victoire de Meloni. Et nous n'utilisons plus le terme centre-droit. C'est la droite et l'extrême droite aujourd'hui. On ne peut plus parler de centre-droit comme on en parlait à l'époque des coalitions de Berlusconi. Mais donc, oui, la gauche doit s'en prendre elle-même. Elle est arrivée divisée, elle a perdu son identité, elle n'a pas réussi à faire une campagne très claire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Cinque Stelle, les 5 étoiles, ont réussi à prendre une place qui était laissée vide par le Parti démocratique du centre-gauche et à mener, lui, une campagne nettement plus à gauche, ce qui explique sans doute en grande partie son succès, surtout d'ailleurs dans le sud de l'Italie où il fait des résultats spectaculaires. Mais la victoire de Meloni, elle était attendue, elle était peut-être tellement attendue qu'aujourd'hui, on ne mesure pas tout à fait ce que ça représente comme changement radical dans la vie politique italienne et probablement la vie politique européenne dans son ensemble.
On va y venir évidemment et on va analyser ça pendant de longues minutes, on a jusqu'à 9h pour y venir, mais ça veut dire Federico Santompinto que l'italien n'est pas plus à droite aujourd'hui qu'hier, il n'y a pas plus d'adhésion envers le discours radical, voire d'extrême droite, voire post-fasciste comme on l'a expliqué aussi, il n'y a pas plus d'adhésion pour ce discours-là en Italie?
Alors, par rapport au fascisme, non, l'italien n'est pas plus fasciste de ce qu'il était, il ne l'est pas. Par contre, l'électorat de centre-droite est de plus en plus à droite. Mais ça, c'est une tendance qu'on voit partout dans le monde, pas seulement en Italie. On la voit aux États-Unis, on la voit en France, on l'a vu plus récemment en Suède. Donc, nous avons un électorat qui se droitise dans le centre-droite et nous avons toujours un électorat de centre-gauche qui correspond toujours plus ou moins à 40-45% selon les périodes, les années, les situations et les contextes. Mais ce centre-gauche se présente systématiquement divisé, et pas seulement en Italie. On retrouve le même problème en France. Et tant que la gauche est divisée, la droite va prospérer et l'extrême droite, qui prend un poids de plus en plus important dans les coalitions de centre-droite, va finir par dominer la scène politique. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'aujourd'hui, les 5 étoiles est en partie de fait de gauche. L'électorat structurellement des 5 étoiles est un électorat de gauche. Le positionnement politique des 5 étoiles, et notamment de Giuseppe Conte, qui a repris en main le parti, parce que maintenant c'est le parti de Giuseppe Conte, beaucoup plus que le parti de Beppe Grillo, est un parti écologiste et de gauche. Et c'était un parti qui était politiquement, structurellement, appelé à s'allier avec le Parti démocratique, qui est un parti centre orienté vers la gauche. Donc ça aurait été naturel, on va dire, que ces deux partis puissent s'unir pour pouvoir faire poids contre le centre-droite. Ils n'ont pas réussi à le faire, le résultat est là.
Ouais, et les 5 étoiles qui ont fait des gros scores dans certaines régions du sud de l'Italie, hein, mais qui sont donc un des perdants, on l'a compris, de ces élections d'hier. Là-dessus, encore un mot, Hugues Lepage, sur la progression des idées d'extrême droite au sein de la population italienne. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Federico Santompinto? Il n'y a pas d'adhésion, de nostalgie du fascisme qui revient en Italie de manière très forte?
Les Noirs qui vont gouverner l'Italie demain, ce n'est pas un retour à Mussolini de ce point de vue-là. Mais la part d'héritage fasciste qu'il y a chez Meloni, on ne sait pas encore dans quelle mesure elle va s'appliquer dans la politique qui va venir. Il faut dire tout de même une chose, c'est que, au fond, le fascisme est un horizon politique qui n'a jamais totalement disparu de l'Italie. Dès le lendemain de la guerre, en 1946, le mouvement social italien, qui sont des anciens dignitaires fascistes mussoliniens, a existé. Il a existé en 1994. Berlusconi a fait une première coalition avec ce parti, qui s'appelait alors Alleanza Nazionale. Et on a aussi eu, si vous voulez, un substrat historique et politique qui a changé. Dans les années, début des années 2000, un courant historique, que moi je qualifie de révisionniste, a voulu mettre sur le même plan ceux qui s'étaient battus dans la guerre civile, c'est-à-dire les fascistes et les antifascistes. Et tout ça fait que, sans doute, il y a là un substrat qui continue d'exister et qui ne choque pas donc l'électeur italien qu'il orientait à droite, et c'est vrai, aujourd'hui, nettement plus à droite qu'au centre-droit.
Bon, le fascisme qui n'a pas totalement disparu donc de la sphère politique italienne.
Une chose, c'est que dans l'expression d'un rejet, c'est aussi un rejet des formes politiques traditionnelles que cette victoire. Il faut ajouter aussi que le taux de participation est le plus bas qu'ait jamais connu les élections italiennes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a presque 40% d'électeurs qui n'ont pas voté et qui ont manifesté aussi là un rejet du système, de la politique telle qu'elle est menée depuis quelques dizaines d'années en Italie.
C'est le quatrième gouvernement que l'Italie connaît en 5 ans ou en moins de 5 ans, et ça peut aussi évidemment expliquer cela. Hugues Le Peige, vous restez avec nous. Vous trouvez ce matin dans le quartier de Giorgia Meloni. D'abord, décrivez-nous, c'est quoi ce quartier de la capitale italienne ?
Alors oui, je suis à la Garbatella. C'est un quartier populaire de Rome qui, peut-être il y a quelques années, était un quartier, je dirais, un peu problématique. Mais maintenant, c'est un quartier où les gens habitent de manière très honorable, je dirais. Et c'est vraiment un quartier populaire, un des plus beaux de Rome. Il y a beaucoup de gens qui voudraient venir habiter ici, tellement c'est un joli quartier, en fait.
Quelle est l'ambiance ce matin, donc, après la victoire de Giorgia Meloni ? Est-ce que vous voyez des signes d'un succès, d'une joie peut-être de certains électeurs ?
Alors écoutez, le quartier est très calme, hein. C'est un quartier assez âgé, je pense, du point de vue des habitants. Mais non, il n'y a pas de signe de joie parce qu'en fait, c'est un quartier qui historiquement vote à gauche, à la Garbatella. Mais je parle avec Gaetano, qui est à mes côtés d'ailleurs, qui a le bar de la Garbatella. Et le bar de Cesaroni, comme il me dit justement, qui est une série très importante en Italie. Et il me disait, le problème, c'est pas le fascisme, parce qu'il vous écoutait, en fait. Et il me disait, le problème, c'est que les gens ont envie que les politiciens fassent quelque chose pour eux, pour le travail, pour la vie, tout simplement. Et donc, la gauche n'ayant pas fait, selon eux, eh bien, ils ont choisi de voter à droite.
Oui, vous voulez dire que, vu d'ici, on souligne fort le caractère extrême droite, voire post-fasciste de Giorgia Meloni, alors qu'en Italie, ce n'est pas du tout ça qui ressort ce matin ?
Absolument. D'ailleurs, c'est clair que les journaux, disons comme le Corriere della Sera ou La Repubblica, parlent bien sûr de la victoire de la droite extrême. Mais ce n'est pas ça qui ressort. Ce ne sont pas du tout les racines du parti. C'est vraiment le fait que Giorgia Meloni a fait une bonne campagne électorale, il faut le dire. C'est la nouveauté sur le paysage politique italien puisqu'elle n'a pas gouverné ces 10 dernières années. Et donc, les gens fatigués, frustrés, eh bien, ont décidé de la voter. Il faut aussi dire que elle fait 26%, elle prend beaucoup de voix à la Lega. Elle n'a pas vraiment été chercher des voix dans d'autres partis où il y avait eu, je dirais déjà, un mouvement de mauvaise humeur, comme par exemple le mouvement 5 étoiles.
Ouais, donc elle a pris des voix à l'intérieur même de sa coalition, Giorgia Meloni. Alors, on va peut-être faire une petite pause et expliquer comment fonctionne le système italien. Ce matin, peut-être Hugues Le Peige d'abord avec vous. Est-ce que Giorgia Meloni sera, c'est sûr et certain, la prochaine présidente du Conseil italien, la première femme à diriger l'Italie ?
Alors, formellement et plus que formellement, politiquement aussi, la première décision appartient au président de la République qui, tenant compte des résultats des élections et après avoir consulté le président de la Chambre, le président du Sénat, les différents leaders de parti, fera une proposition et demandera, plus que probablement, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, demandera à Giorgia Meloni de tenter de former un gouvernement. Après, on verra comment ces négociations vont pouvoir se dérouler. Et c'est vrai que le nouveau rapport de force qui existe à l'intérieur de la droite et de l'extrême droite ne sera pas simple à gérer pour Meloni. Salvini, la Lega, a perdu la moitié de ses électeurs, y compris dans ses bastions, je veux dire, en Vénétie ou dans le Trentin. Les Fratelli d'Italia font le double de la Lega. Berlusconi sauve les meubles. Quel jeu voudra-t-il jouer ? Quelle sera aussi sa capacité à éventuellement influencer le vote, la formation du gouvernement ? Ça, on ne connaît pas encore tous les résultats non plus pour pouvoir le dire.
Ça veut dire, Federico Santopinto, que ce matin, on est avec une coalition de droite qui a gagné, mais qui pourrait imploser dans les jours qui viennent, à cause justement de cette tension qu'il y a entre Giorgia Meloni d'une part et Matteo Salvini de l'autre.
C'est fort possible, la coalition pourrait imploser. Il faudra voir les résultats du parti de Berlusconi, Forza Italia. Parce que c'est un parti qui se positionne au centre, qui se veut européiste, qui veut être dans le PPE, le Parti Populaire Européen. Et donc, c'est un parti qui n'accepterait pas une politique anti-européenne ou une politique trop extrême. Or, il est fort probable que si la coalition de Meloni dépend des partis, des votes des parlementaires centristes, à mon avis, elle pourrait tomber dans quelques mois même ou dans une petite année. Parce qu'on doit voir ce qui va se passer sur les marchés financiers. Les marchés financiers pourraient essayer de sanctionner l'Italie, ou en tout cas, il pourrait y avoir un mouvement de spéculation qui pourrait mettre la dette italienne en difficulté, la situation de économique de l'Italie en difficulté, ce qu'on a déjà vu. Donc, un certain chaos politique. Et je pense qu'en réalité, les centristes, qu'ils soient dans la coalition de gauche ou qu'ils soient dans la coalition de droite, ne rêvent que du bon moment pour faire tomber le gouvernement qui sera en place et créer un autre gouvernement du style Draghi, c'est-à-dire un gouvernement institutionnel avec tout le monde dedans qui puisse permettre de stabiliser la situation.
Ouais. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'était l'un des arguments de campagne de Giorgia Meloni, qui disait « Avec nous, c'est fini l'instabilité politique comme on l'a connue ces dernières années en Italie. On a un bloc de droite qui est cohérent et on va pouvoir gouverner pendant plusieurs années sans qu'il y ait de renversement de majorité. » Beda Romano, vous êtes journaliste italien basé à Bruxelles. Vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est pas du tout la fin de l'instabilité politique, cette victoire de la coalition de droite en Italie?
Absolument, oui. Ce n'est pas la fin de l'instabilité politique pour différentes raisons. Il y a un aspect qui, je crois, il faut souligner, c'est que les trois partis de la coalition ont des visions extrêmement différentes à propos, par exemple, de la Hongrie et de la manière dont gérer le gouvernement hongrois en Europe. Il y a quelques jours, au Parlement européen, il y a eu le vote d'une résolution très critique envers la Hongrie. Lega et Forza Italia se sont opposés à cette résolution. Lega et Fratelli d'Italia se sont opposés à la résolution, alors que les députés de Forza Italia ont approuvé la résolution. Et c'est très significatif, je crois. C'est très significatif parce que ça montre bien les différences politiques entre les trois partis. Et je dirais même plus, il y a une différence qui n'est pas soulignée suffisamment, c'est la différence générationnelle. Forza Italia est pour le moment, bien entendu, présidé par un homme politique et entrepreneur très âgé, naturellement, 85 ans, mais il a connu la guerre. Et ça fait une grosse différence par rapport aux deux autres leaders politiques de cette coalition, Giorgia Meloni et Matteo Salvini, qui sont au contraire des personnes dans leur quarantaine, qui n'ont aucune idée de la Seconde Guerre mondiale et n'ont pas vécu cette période historique. Donc cet aspect également est à tenir à l'esprit en analysant le futur de cette coalition.
Vous voulez dire que sur la Russie et sur l'Ukraine, il y a des divergences très fortes qui pourraient être mises au jour et là aussi être un élément de fracture de ces coalitions de droite ?
J'ai parlé de la Hongrie, pas de la Russie. Je crois qu'il
c'est parce que vous parlez de la guerre.
Oui, bien entendu. Mais je pensais en particulier à la Hongrie. En ce qui concerne la Russie, là, les divisions sont différentes. Monsieur Berlusconi et Monsieur Salvini sont apparemment alliés de la Russie dans ce contexte, alors que Giorgia Meloni s'est opposée à la guerre dès le début et a montré un visage beaucoup plus atlantiste. Je ne sais pas si la Russie est une source de tension aussi importante que ne l'est la Hongrie. Je ferai une différence entre Hongrie et Russie en ce qui concerne les différentes visions à l'intérieur de cette coalition.
Alors, quelles conséquences pour l'Union européenne de cette victoire de la coalition de droite et de l'extrême droite qui va arriver au pouvoir en Italie? On va commencer avec vous, Sébastien Maillard, vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. On sait les États membres de l'Union européenne suivaient avec attention ce qui se passe en Italie. Est-ce que aujourd'hui l'Union européenne et sa cohésion tremblent sur leur base en voyant arriver l'extrême droite au pouvoir en Italie?
Je ne sais pas si elle tremble déjà, mais en tous les cas, elle sera très attentive et vigilante sur le programme de cette future coalition. Les précédents commentaires ont souligné le fait qu'il y avait des tiraillements internes. Et en effet, la présence de Forza Italia, qui appartient au Parti Populaire Européen, pro-européen, qui est dans la tradition plutôt de la démocratie chrétienne, effectivement, tient à cet ancrage européen. D'ailleurs, elle-même, Giorgia Meloni, n'a si elle a eu beaucoup de sorties je dirais, anti-bruxelloises au sens bureaucratique du terme, elle n'a pas pris de front l'UE, elle ne veut pas en sortir, ne pas quitter l'euro. Je pense que c'est plutôt au moment des élections européennes 2024, si cette coalition est toujours là, qu'on sentira beaucoup plus s'accentuer les divergences. Mais vu de Paris, on peut s'inquiéter, puisque là, autant il y avait une proximité, on sait, très forte, même une complicité entre Mario Draghi et Emmanuel Macron, et au Conseil européen, ça se sentait, de la façon dont on pouvait porter ensemble des projets. Là, bien sûr, cette lune de miel sera révolue.
Est-ce qu'elle va rester dans les clous de la Commission européenne, Giorgia Meloni? Est-ce qu'elle va suivre le Green Deal? Est-ce qu'elle va utiliser l'argent de la relance? On sait que l'Italie est le premier bénéficiaire, comme c'est prévu. C'est des questions qui se posent aussi ce matin.
En tout cas, pendant sa campagne, elle a été prudente sur ces sujets, notamment sur le plan de relance. Effectivement, l'Italie en est le premier bénéficiaire, avec au total près de 200 milliards d'euros. Donc c'est une somme colossale. Et là-dessus, on sait bien que ses partenaires européens seront très attentifs à la façon dont cet argent est géré. Les marchés financiers aussi regarderont comment ce pays qui a une dette qui représente plus de 150% de son PIB gérera cet argent. Donc et là, cette contrainte extérieure limite ses marges de manœuvre et effectivement l'oblige à la prudence et à se faire, si elle veut se faire accepter par ses partenaires européens.
Mais donc il n'y a pas de risque, entre guillemets, de voir une Italie eurosceptique dans les mois et les années qui viennent, si je vous comprends bien, Sébastien Maillard?
De toute façon, les Italiens ne sont plus aussi europhiles qu'ils l'ont été dans le passé, puisque que ce soit la crise de l'euro, la crise des migrants ou la crise du Covid, ont laissé des traces lorsqu'il y avait des manques à la solidarité européenne. Mais c'est un pays qui reste quand même profondément européen, et d'ailleurs, La Giorgia Meloni, encore une fois, n'a pas pris garde dans sa campagne à ne pas se lancer dans une campagne anti-UE qui lui serait sans doute préjudiciable. Elle reste atlantiste. Je ne m'attends pas, sur le plan des sanctions vis-à-vis de la Russie, à ce que la solidarité occidentale soit rompue à cause de cela. Mais il y aura sans doute des tiraillements, encore une fois, avec son partenaire de la Ligue, et qui, on sait, lui, est pro-Poutine dans leur application. Mais on voit bien avec les résultats que le rapport de force entre eux est en faveur de Meloni.
Voilà, ça c'est pour l'attitude que la possible future présidente du Conseil italien aura avec les 27. Hugues Lepège, sur les conséquences au sein de l'Europe, un parti d'extrême droite qui gagne les élections dans un grand pays comme l'Italie, ça va avoir une valeur de symbole aussi pour d'autres élections dans d'autres pays européens?
Mais on a vu la Suède il y a quelques jours, donc il y aura l'Espagne aussi sur l'avancée de Vox dans nos prochaines élections, qui sont des alliés, je dirais, vraiment de principe de Meloni. Maintenant, oui, symboliquement, ça a une force, mais je pense aussi, comme il a été dit, qu'elle l'a montré dans sa campagne électorale, où elle a alterné des attitudes extrêmement pragmatiques, notamment par rapport à l'Europe, et en même temps rassurant son vieil électorat de nature fasciste réelle, en faisant des références aux symboles du fascisme pendant toute la campagne. Il a eu ce double langage, mais il est à peu près certain qu'elle va mener une politique économique qui ne sera probablement pas très différente de celle que menait Draghi, qu'elle restera, de ce point de vue-là, dans les rails d'une politique libérale. La question qui se pose quand même sur cette par rapport à l'Europe, quelle sera l'attitude de Salvini? D'abord, est-ce qu'il restera à la tête de son parti après cet échec électoral? S'il y reste et qu'il occupe une fonction importante au sein du gouvernement, comme il l'espère, est-ce que ce résultat est très mauvais pour lui, l'incitera à faire profil bas pendant un certain temps, ou au contraire, à exprimer une radicalité encore plus forte? C'est une des inconnues, je dirais, des tiraillements à l'intérieur de du futur gouvernement.
Matteo Salvini, qui sera peut-être donc au sein du gouvernement italien. Petite question pour vous, après on fait une pause, Federico Santopinto. Est-ce qu'on peut voir aussi Silvio Berlusconi revenir aux affaires, obtenir un portefeuille ministériel dans les jours, les semaines qui viennent?
Alors, il y a quelques temps, il voulait être élu président de la République à l'âge de 85 ans, alors que lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il a peut-être plus exactement les mêmes facultés qu'il avait dans le passé. Maintenant, il voudrait devenir président du Sénat, c'est-à-dire la deuxième charge institutionnelle de l'État. Voilà, ça c'est son ambition. Je ne sais pas si elle sera réalisée. Par rapport à la posture de l'Italie en Europe, je ne pense pas qu'elle va changer structurellement, mais c'est l'attitude que l'Italie va avoir en Europe qui va évoluer. Meloni ne va pas remettre en cause l'intégration européenne, l'euro, etc. Mais Draghi était un fervent fédéraliste. Il a même parlé de fédéralisme au Parlement européen. Il voulait plus d'intégration, il voulait avancer. Il était très très volontaire et c'était un précieux allié de Macron. Maintenant, on aura une Italie qui va certainement traîner des pieds. Si elle ne va pas remettre en cause la position italienne en Europe, elle ne va certainement pas pousser pour qu'il y ait plus d'intégration dans certains sujets, comme par exemple la défense européenne ou d'autres. Et donc, je pense que les pays qui veulent essayer de faire avancer le processus d'intégration vont perdre un allié précieux. Et devront compter sur eux-mêmes plutôt que sur un pays et un allié important qui était Draghi.
Alors, petite réaction peut-être là-dessus de Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Ça veut dire que l'Italie va peut-être se ranger désormais du côté de justement d'États comme la Hongrie, par exemple, au sein de l'Union européenne, et que ça va avoir des conséquences pour la cohésion des 27 ?
Je crois que Victor Orban, d'ailleurs, a été le premier à féliciter Giorgia Meloni. Bon, ce qu'on risque de voir, c'est plutôt peut-être aussi un effacement d'Italie, en tout cas un manque d'influence dans les décisions, et voir se rapprocher davantage le moteur franco-allemand. Il y a d'ailleurs un conseil des ministres franco-allemand prévu le 26 octobre pour essayer de reprendre et de redynamiser cela. Mais c'est vrai qu'on arrive à des moments dans la perspective de l'élargissement, à tout ce qu'il y a à entreprendre pour une meilleure souveraineté européenne face au reste du monde. On aura un manque de dynamisme que pouvait apporter un pays comme l'Italie dans cette reconstruction. Et ça manquera terriblement. Donc ça va affaiblir la dynamique européenne. Je ne pense pas que ça puisse à ce point, même si Orban soutenait l'Italie, que ça suffise pour faire un front qui s'oppose à toute réforme.
On commente ce matin les